Oui, c'est quand même une tâche. Alors, quand j'ai vu le titre que m'a donné Pierre Léna, témoignage, je me suis posé des questions. Alors, j'ai essayé de témoigner, effectivement, et d'abord de te remercier, Pierre, de m'avoir associé à cette journée. Nous en discutions depuis quelques mois, c'était très intéressant, et la mise sur pied de cette journée par l'Académie des sciences est quelque chose que je pense très important, effectivement, dans la dynamique de la COP qui va être à Marrakech, donc commencer dimanche. Voilà. Alors, le témoignage est assez délicat pour moi parce que je ne suis pas enseignant et donc le témoignage sur l'éducation va être très modeste. Alors, Guylain, tu dirais que je suis hors sujet. C'est clair. Je vais être largement hors sujet. Je vais essayer d'assumer. Je remercie vraiment Pierre, le comité scientifique, d'autant plus de m'avoir invité. Voilà. Alors, quel angle je vais prendre? Je vais quand même essayer de rester sur le titre de cette journée. Alors, changement climatique et éducation dans le cadre du développement durable. Et comme point de départ, je vais prendre, en fait, donc comme point d'entrée, un récent... Navi du Comité économique, social et environnemental, dont je suis membre, Philippe également, tout à l'heure, Philippe Jachan est membre, nous nous retrouvons très souvent dans la section environnement. Cet avis s'intitule « Éducation à l'environnement » et les co-rapporteurs étaient Antoine Dulin et Alain Bougrain-Dubourg. Et le point principal de cette notion d'éducation à l'environnement, où la part changement climatique est très importante, c'est une éducation tout au cours de la vie et vers des publics larges et différenciés. Donc je vais un peu quitter simplement l'éducation au sens éducation vers les jeunes, vers l'école, pour parler plus d'une éducation qui, pour moi, me semble tout à fait nécessaire de l'ensemble, disons, de notre communauté humaine. Alors le premier point c'est, que j'aimerais souligner, c'est le rôle clé du GIEC. Alors, pourquoi j'ai bien noté, Valérie était là ce matin, je crois que nous partageons cette idée de certaines faiblesses du GIEC vis-à-vis, en particulier pour ceux dont nous discutons aujourd'hui, à savoir vers l'éducation. Le GIEC est très faible. Les résumés pour décideurs sont difficilement audibles, lisibles. La raison principale, enfin, en tout cas telle que je l'analyse, c'est cette approbation du résumé par décideur par les décideurs politiques, par l'approbation par le comité, l'assemblée plénière du GIEC, hein, c'est-à-dire les... Et donc, c'est difficile dans cette approbation. Cette approbation a un sens très fort. J'y suis très favorable, en ce sens que le rapport lui-même reste dans la main des scientifiques, puisque les représentants des gouvernements ne peuvent apporter des modifications que s'ils en trouvent l'origine dans le rapport principal. Le revers de la médaille, c'est que effectivement, je crois que ça contribue à la difficulté de lecture pour un grand public du rapport du GIEC à la fin. C'est très clair, mais pour moi, c'est très important parce qu'à travers ce processus d'approbation, les décideurs politiques adoptent au sens fort le rapport du GIEC. Et en ce sens, cette adoption fait que, eh bien, par exemple, on va commencer la COP22 dimanche, eh bien, il n'y aura pas de remise. Elle s'appuiera très largement sur le cinquième rapport du GIEC. Il n'y aura pas de remise en cause par les gouvernements. Très rarement, c'est arrivé effectivement en 2007, en 2009 au moment du Climate Gate. Hein, c'est le seul cas où à l'ouverture d'une conférence climat, eh bien, un pays, l'Arabie Saoudite, a remis en cause le rapport du GIEC à cause du Climate Gate qui venait de, disons, cette substitution d'une série de mails à l'équipe de Phil Jones. Donc là, c'était la seule fois où un pays a remis en cause la qualité des rapports du GIEC, mais ce n'est généralement pas le cas. Une fois qu'ils ont été endossés par le gouvernement, effectivement, ils sont vraiment adoptés. Alors, Bon, il y a ces difficultés. Je pense que le rapport du GIEC peut être amélioré dans sa lisibilité. On peut aussi, je crois, que c'est aussi notre rôle, la communauté scientifique. L'avantage pour nous, me semble-t-il, pour la communauté scientifique climat, c'est que le rapport du GIEC nous donne un socle commun de connaissances. Ça, c'est très important. À chaque fois, chacun d'entre nous, nous l'utilisons d'une façon différente, que ce soit Thierry Lebel ou Valérie, Hervé, moi-même, tous les gens qui le portent. Eric, ici, beaucoup de gens, finalement, se servent du rapport du GIEC comme base. Personne ne l'utilise de la même façon, mais ça nous donne quand même, je crois, un socle commun de connaissances qui est très très important. Et bon, bien sûr, je ne redirai pas non plus, il y a toujours du climato-scepticisme, mais peut-être aussi la plupart des réponses au climato-scepticisme se trouvent-elles dans le rapport du GIEC, et je pense que ce sera le cas du sixième rapport du GIEC. Je me tourne là vers Valérie. Alors, vers les jeunes. Alors, évidemment, j'ai dit que je ne suis pas... très très impliqué vers les jeunes. Je le suis quand même, je le fais. Je me suis impliqué dans les petits débrouillards, par exemple. Guylaine, tu as cité les petits débrouillards. Je crois que je suis parrain d'une camionnette. Alors, la dernière fois, je suis allé à La Roche-sur-Yon. À part qu'il pleuvait, il y avait beaucoup de gamins. C'était très sympa. Donc voilà, je suis impliqué dans les petits débrouillards. Je le fais moins que Valérie, qui fait beaucoup vers les jeunes. Moi, j'en suis au stade des petits-enfants, mais bon, voilà. Alors, je pense qu'une des choses serait quand même de... Ce que je constate au labo et à l'Institut Percy-Malplace en général, c'est que quand il y a des demandes des écoles, il y a toujours quelqu'un pour y répondre. Ça, c'est très clair pour moi, il faut bien le savoir. C'est-à-dire, et ces liens, au contraire, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui souhaiteraient aller dans les écoles, souhaiteraient être sollicités peut-être plus. Donc je pense que ces liens, communauté de chercheurs, sans qu'ils soient trop palourdis, éducation nationale pourrait être renforcée. Ça, c'est... Voilà. Une autre expérience que j'ai vécue, c'est un peu comme moi, dans la camionnette au niveau du parrainage. J'ai été très heureux de parrainer une initiative qui a été vraiment très très forte et qui reste très très forte puisqu'elle va se poursuivre, c'est celle du train du climat. Donc j'ai parrainé cette initiative qui aussi, il y a le train du climat au Maroc, ça a été un très grand succès. Donc le train du climat est parti au Maroc, va arriver, donc tout ça, ça existe, c'est grâce à toute une équipe de jeunes, ici certains sont là, qui se sont impliqués, j'ai eu le plaisir là aussi, donc j'essaye de parler à travers ce témoignage d'expérience au moins dans lesquelles je suis intervenu à différents titres, dans ce cas-là, plus du parrainage, et j'essaye d'aider aussi quand il y a besoin de recherche de plus de soutien financier, donc mon aide se situe plus là que... J'y suis allé dans le train, mais simplement 2 ou 3 jours. Bon, ça va continuer, c'est vraiment une expérience... Alors, elle n'est pas tournée que vers les jeunes, elle est tournée, il y a aussi, au fait, beaucoup de monde, donc le train s'arrête dans différentes gares, il y a beaucoup de monde à venir, et c'est vraiment une méthode très importante. Je rentrais hier, j'étais la semaine dernière ou vendredi, j'ai fait un cours à Orsay, et une jeune m'a dit on va faire le RER du climat parce qu'on est revenu, voilà, donc il y a plein de gens qui souhaitent faire des choses, des initiatives vers les jeunes, vers les gens et vers les grands publics. Alors peut-être mon action la plus visible, la plus complète, c'est, je crois, quand je regarde un peu derrière moi, ça a été vers les médias. Alors je fais régulièrement de la télé, de la radio, j'ai pas de conseils à donner non plus, mais je pense qu'une des choses qui m'a intéressé, c'est bon, le problème des conférences grand public que je fais beaucoup, c'est que généralement aux conférences grand public, alors sauf juste après le Climate Gate, les gens qui viennent nous écouter sont des convaincus. Alors c'est très bien. Je suis au contraire, parce que ça les renforce dans leurs convictions et ça leur permet aussi d'aller porter la bonne parole. C'est pas inutile, mais c'est forcément limité. Si on veut toucher plus de monde, il faut effectivement essayer d'avoir d'autres approches. Enfin, essayer, donc, en tout cas, il y a d'autres approches qui sont possibles. Les médias en général, que ce soit les journaux, bien sûr, mais aussi la télé, la radio. Donc il y a des émissions qui se prêtent à, bon, c'est dans l'air, la tête au carré, où on peut intervenir. Alors ce que j'ai peut-être fait, que font moins peut-être certains de mes collègues, c'est intervenir dans des émissions à très très grand public, aller chez, Bourdin ou bien chez Ruquier. C'est aussi des choses qu'il faut faire si on veut toucher des publics différents. Parce que ceux qui écoutent la tête au carré sont généralement aussi là des convaincus. C'est un peu le problème. Alors les livres, bon, j'ai bien sûr rédigé des livres, soi-disant grand public, mais qui touchent un public généralement très limité. Quand on a 5000, donc il y en a qui sont mieux ici, hein, je sais. Mais moi, quand on passe 5000, je suis content, mais enfin l'éditeur est content. Voilà, il y a aussi d'autres moyens qui sont finalement assez, assez percutants. Hein. Je suis avec alors Hervé également, Hervé Le Treut et Stéphane Algat, un des héros d'une bande dessinée Saison Brute, dont on me parle régulièrement. Hein. Cette bande dessinée est sortie il y a maintenant 3 ou 4 ans de Philippe Squarzoni. J'en suis un des héros avec, je ne sais pas, tout seul Hervé, Stéphane Algat au moins ici, enfin Stéphane n'est pas là, donc, mais c'est les BD, j'ai aussi eu le plaisir d'être disons le héros de d'autres BD, mais c'est aussi une approche qui peut toucher beaucoup de publics, en particulier les jeunes. Bon, là aussi, alors là c'est très bon, c'est quand même intéressant de citer parce que j'étais le héros d'une pièce de théâtre, voilà, mais Hervé est également cité, je crois, Glacier Grondant, c'était assez prenant. Bon, ben, évidemment c'est audience limitée, mais c'est une très belle pièce de théâtre dans lequel on cherche, le personnage principal cherche Jean Jouzel tout le long de la pièce de théâtre. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc évidemment, non. Alors, bon, je crois qu'il y a quand même une approche dont il faut vraiment utiliser au maximum. Je crois qu'elle est intéressante. Je pense qu'on a besoin de passeurs. Donc moi, je dis à toutes les fois qu'on a besoin de passeurs. Entre la communauté scientifique, le grand public, les jeunes, on a besoin de gens qui nous aident. Des Jean-Louis Etienne, des Nicolas Hulot. Au niveau international, bon, j'ai eu le plaisir d'aller à l'avant-première du film Avant le déluge de Leonardo DiCaprio, voir Leonardo DiCaprio sur scène intervenir. C'était la semaine dernière, je crois, lundi dernier, au Châtelet. C'était très prenant. Il y avait beaucoup de jeunes. Là, justement, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on peut espérer que ce film, qui s'appuie complètement sur le rapport du GIEC, hein, très proche du rapport du GIEC, eh bien, touche un public jeune, tout simplement, parce que Leonardo de DiCaprio a une certaine visibilité. Mais il y a des films comme La glace et le ciel, qui raconte la vie de Claude Lorius, Demain, qui est très optimiste aussi, qui donne une vision optimiste des solutions, qui sont vraiment des vecteurs de communication qui me semblent assez importants. Bon, là, je n'ai pas participé, mais je tiens à souligner. Alors, dans cette idée d'être tourné avec tous les publics, vers tous les publics, et là, j'en terminerai de mon témoignage, je pense qu'il y a un public qui est important, c'est celui des décideurs politiques. C'est très important. Bien sûr, il y a le grand public, il y a tous les secteurs, le secteur économique également. J'interviens souvent dans le secteur économique. Alors, les décideurs politiques, c'est vrai, quand on demande du CESE, j'ai des opportunités de les côtoyer. Je viens de terminer, par exemple, avec une collègue Agnès Michelot, juriste, on vient de présenter un avis sur la justice climatique. C'est l'occasion d'aller présenter cet avis, hein, sur ce problème d'inégalité que Thierry Lebel a évoqué tout à l'heure, hein, en particulier des inégalités liées au changement climatique qui surviendront aussi dans notre pays. Voilà, donc c'est une occasion de le faire. Mais quand on regarde là aussi, disons un peu rétroactivement, on a quand même des expériences un peu mitigées par rapport aux décideurs. Alors, une bonne expérience, c'est pas du tout, je ne vais pas faire de politique, mais celle de François Hollande, disons qu'à lors de la présentation du rapport du GIEC du premier groupe, je suis invité par l'équipe de François Hollande à mettre sur pied une réunion dans laquelle on lui exposerait le rapport du GIEC. Ça a été fait, Valérie, Hervé était là, donc c'était vraiment, on a passé vraiment du temps à lui expliquer le rapport du GIEC. Et je pense dire, sans me tromper, que si la conférence climat a été organisée en France, c'est parce que nos dirigeants ont senti qu'il y avait une communauté scientifique solide dans ce domaine en France. Et ça, c'est très clair. Pour moi, c'est extrêmement clair. Si ça n'avait pas été le cas, la COP n'aurait pas été organisée à Paris. Voilà. Alors, le négatif, maintenant, et c'est un peu je ne vais pas revenir sur, au niveau international, Trump, au niveau français, disons des gens qui renient un peu leur position initiale. Mais ce qu'on peut constater et regretter quand même, c'est que, quel que soit, on est loin de 2007, où le pacte écologique avait été, j'étais à cette signature du pacte écologique, c'était très prenant de voir ces 10 candidats à la présidence de la République signer le pacte écologique. Et en fait, ça a été quand même le lancement du Grenelle de l'environnement. Nous sommes malheureusement très loin de cette situation, que ce soit dans les débats sur les primaires, que ce soit sur encore le mot développement durable et le développement changement climatique, même développement durable, n'a été évoqué et ne sera évoqué par personne, hein, me semble-t-il, dans toute cette campagne. Et c'est vraiment, nous devrions vraiment faire quelque chose, parce que ce n'est pas peu, enfin, c'est quasiment inacceptable que dans tous ces débats, le problème d'environnement ne soit jamais abordé. Alors, Bon, voilà. Et voilà, donc je vais terminer pour dire que le témoignage, ce n'est pas un témoignage du passé. Voilà, ma journée d'aujourd'hui, eh bien, ce matin, j'étais avec vous. Ensuite, je suis allé, c'est un corps très important donc, à des militaires. Je suis allé, faire la séance d'ouverture d'une session de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Il y avait beaucoup de hauts gradés, surtout des pays asiatiques, et c'était beaucoup de questions également. Je vais ensuite aller à Radio France sur une mission de France Culture sur le droit, sur l'environnement, enfin, le droit à la nature, droit et nature, sur un livre de Valérie Cabanne. Je vais quand même faire un cours ensuite à Sciences Po, donc, parce qu'il faut bien faire, il faut bien enseigner. Ces jeunes ont besoin de savoir ce que c'est que le réchauffement climatique. Et je terminerai ma journée par Public Sénat pour parler de la COP22. Donc, vous voyez, ce témoignage, il est bon, c'est peut-être une journée, donc c'est une journée, voilà, normale. Merci beaucoup.
Un petit rebond, bien entendu, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Jean. Moi j'ai une interrogation sur la manière dont les scientifiques doivent... Tu mentionnes un peu le recul certain dans le milieu politique français des problématiques autour du développement durable au sens large. Il y a un livre qui est paru d'un scientifique danois, d'un biologiste, il y a 6 mois, qui passait en revue l'histoire scientifico-politique autour des perturbateurs endocriniens et des pollutions de l'environnement. Et il dit aujourd'hui, quand il refait l'histoire, il dit en fait, il y a 30 ans, il y avait déjà tous les articles scientifiques qui mettaient pratiquement en avant tous les mécanismes expliquant pourquoi tel et tel polluant avait un effet négatif sur la santé humaine. Donc il dit, il y a 30 ans, on avait les évidences scientifiques, elles étaient là. Et c'est aujourd'hui seulement, et encore à quel prix, que ça commence à être sur l'agenda des politiques. Et donc il interpellait sa communauté scientifique en disant, nous scientifiques, on n'a pas été à la hauteur de notre tâche, parce que quelque part, on est toujours dans une démarche de précaution du savoir, de discuter nos hypothèses. Et il dit oui, certes, à l'époque, il y avait des bémols, il y avait des points de discussion, mais finalement, les évidences, on les avait déjà. Et on aurait dû être beaucoup plus, alors je ne sais pas s'il faut dire militant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on aurait dû être des avocats bien plus présents sur la scène publique autour de ces questions. Donc, on pourra peut-être nous faire ce reproche à nous, scientifiques du climat, dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans.
Oui, alors très très brièvement un commentaire. D'abord, nous sommes dans la même situation sur le climat. Quand on regarde le premier rapport du GIEC, je commence très souvent mes interventions grand public par montrer les résultats du premier rapport du GIEC. 3 degrés dans la deuxième partie de réchauffement dans la deuxième partie du 21e siècle, jusqu'à 65 cm d'élévation du niveau de la mer et des conséquences importantes, c'est bien cité. Donc le premier rapport du GIEC était très clair. La difficulté, c'est que ce que voulaient les gens, c'est pas ce vers quoi on va, c'est dites-nous si ce qu'on vit aujourd'hui est vraiment lié au réchauffement climatique. Et l'attribution du réchauffement climatique aux activités humaines a effectivement pris 20 ans. Mais nous n'avons pas changé dans les projections. Il n'y avait pas besoin d'attribuer le réchauffement climatique pour savoir ce vers quoi on allait si on émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ça, je sais que tu le sais, mais c'est important quand nous sommes dans cette même situation. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai vécu le GIEC et Valérie, une des choses qu'on nous demande au GIEC, c'est de ne pas trop s'investir dans des ONG, j'ai toujours essayé de respecter ça, peut-être je fais un peu plus maintenant, je suis plus au GIEC, donc c'est Valérie qui appellera, donc c'est maintenant à Valérie de faire attention, oui, on a probablement eu des torts, on essaye tous, tu essayes, il y a des Grenoblois qui font beaucoup également. Je ne sais pas, rétrospectivement, ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait vraiment. Parce que, bon, peut-être qu'on a été trop négatif. Moi, j'ai toujours essayé de mettre en avant cette certitude d'un réchauffement à long terme, bien qu'au départ, on ne savait pas vraiment que le réchauffement en cours était lié aux activités humaines. Mais c'est la question qu'on nous a posée pendant 20 ans, et la crédibilité, une certaine crédibilité n'est venue qu'à partir du moment où on affirme que le réchauffement climatique des 50 dernières années est très probablement lié aux activités humaines. Avant, il y avait très peu d'écoute, et ça, c'est tout à fait regrettable.